Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 8 janvier. Aujourd'hui, pas mal d'actualités internationales parce que ça craque un peu dans tous les sens. On se demande si on n'est pas encore aux aubes d'une nouvelle guerre ou si de toute façon c'est pas tout le temps la guerre. En tout cas, il y a pas mal de pays auxquels on va s'intéresser, notamment du côté, on va aller en Iran parce que la contestation force et continue de forcer et peut-être même pourrait menacer le régime des Mollahs. Un petit tour aussi en Syrie, aux États-Unis avec un nouveau drame imputable à l'ICE, cette fameuse police de l'immigration du côté de Minneapolis, qui va peut-être aussi mettre le feu aux poudres de la contestation anti-Trump. Et puisqu'on parle violence policière, on reviendra aussi sur les anniversaires de la mort de Cédric Chouviat ou de Michel Zecler, hein, qui n'ont toujours pas eu de jugement pour leur mort. Et puis voilà, deux, trois petites brèves ensuite autour du climat et de l'environnement. En Iran, donc tout d'abord, c'est là qu'on va s'intéresser un petit peu à la situation. On est peut-être sur un point de basculement. Voilà, on est au 10e jour hein, d'une contestation, une nouvelle contestation populaire de grande ampleur, hein, un mouvement insurrectionnel même, on pourrait le qualifier ainsi. Il continue de s'élargir à de nouvelles villes. Les insurgés ont en effet pris possession de deux villes du pays, Abdanan et Malekshahi, c'est-à-dire qu'ils ont repoussé les forces de sécurité du régime. C'est depuis le 28 décembre que les Iraniens manifestent à travers tout le pays, et ce malgré la répression à laquelle ils font face, hein, vous vous en doutez, en Iran, ça ne rigole pas. Poussés à descendre dans la rue pour protester contre le marasme économique surtout, ils aspirent donc maintenant à la chute du régime des Mollahs, qui en s'en trouve très fragilisé. Abat le dictateur, mort à Khamenei, quelques-uns des slogans qu'on peut entendre depuis 11 jours, hein, des slogans anti-régime dans les rues de plusieurs villes iraniennes. Sur fond donc principalement de crise économique, cette fois-ci, les Iraniens sont descendus dans la rue pour manifester leur opposition à la République islamique et au régime donc des Mollahs, jugé corrompu, trop répressif et trop rigoriste. Il est incarné par son guide suprême Ali Khamenei, qui est au pouvoir depuis plus de 45 ans. Cette contestation est partie du cœur économique du pays, à savoir le bazar de Téhéran, la capitale, ce 28 décembre dernier, où des commerçants ont fermé boutique face à l'hyperinflation qui touche leur pays. Depuis, la protestation a gagné 23 provinces sur les 31 que compte le pays. Cette protestation touche autant des zones rurales que des zones urbaines, et elle attire autant les ouvriers que les étudiants des universités. Le mouvement touche ou a touché en tout cas au moins 45 villes, hein, surtout des petites villes et des moyennes villes, dans l'ouest du pays principalement. C'est un des comptes basés sur l'AFP, basé sur les annonces officielles et les médias locaux. Selon le ISW, l'Institut américain pour l'étude de la guerre, 179 manifestations dans 24 provinces ont ainsi été recensées à travers l'Iran, entre rien que ces trois jours, le 2 et le 5 janvier. Et il est intéressant par exemple de voir que même la ville natale du général Soleimani, qui est le chef de la branche extérieure des gardiens de la Révolution, qui a été tué en 2020 par les Américains, donc c'est une ville qui est plutôt conservatrice, eh bien même cette ville commence à se joindre au mouvement. C'est ce que note Azadeh Kian, qui est une professeure émérite de sociologie à Paris, à l'université Paris-Cité. Elle ajoute d'ailleurs aussi, les partis politiques kurdes iraniens, qui jusque-là étaient assez silencieux, eux aussi ont décidé de soutenir le mouvement ce mardi, et ils ont demandé aux commerçants dans les régions kurdes de fermer aussi leurs boutiques. Cette fois donc, vous l'avez compris, l'origine du mouvement n'est pas sociétale, hein, comme lors du meurtre de la jeune Mahsa Amini, mais cette fois-ci économique. On va regarder un petit peu ce qui se passe. C'est la monnaie nationale, donc le rial, qui a perdu plus d'un tiers de sa valeur face au dollar, et cela entraîne une inflation galopante dans le pays, c'est-à-dire que les prix montent et les salaires ne suivent pas, et aussi une importante volatilité des prix. Fin septembre, l'ONU avait rétabli des sanctions internationales qu'ils avaient levé 10 ans auparavant, et ce en lien avec le programme nucléaire iranien. Et donc ce rétablissement des sanctions a enfoncé une économie qui est déjà fragilisée par la mauvaise gestion du régime et la corruption présente dans le pays. Donc les pères et mères de famille qui étaient absents lors du mouvement Femmes, Vie, Liberté descendent aujourd'hui eux aussi dans la rue, car la situation est tellement difficile qu'ils n'arrivent plus à survivre. Il y a beaucoup de jeunes, souvent diplômés, mais aussi des jeunes de classe populaire au chômage ou des commerçants, précise toujours donc la chercheuse Azadeh Kian. Peut-être qu'en nombre de manifestants, l'ampleur de Femmes, Vie, Liberté n'est pas atteinte, mais en termes d'impact et de composition de ce mouvement, c'est beaucoup plus important à son sens. Alors je vous ai parlé des commerçants de ce grand bazar de Téhéran qui ont lancé la protestation. En effet, ce sont plutôt des conservateurs très proches du pouvoir clérical. Ça veut dire que ce régime est même contesté par des groupes sociaux qui lui étaient proches jusque-là. Donc l'explication est à chercher dans les récentes décisions du président réformateur Massoud Pezeshkian qui souhaitait, dit-il, mettre de l'ordre dans l'économie iranienne. Ça, c'est une analyse du directeur de recherche émérite au CNRS, Bernard Ourcade, qui est intervenu, je vous ai pris un petit peu un résumé fait sur le site de BFM TV, tiens, pour une fois. Donc il explique que dans l'optique de ne plus apparaître sur la liste noire du groupe d'action financière, qui dirige l'action mondiale de lutte contre le blanchiment d'argent, et aussi pour relancer l'économie du pays, des milliers de comptes en banque qui étaient jugés frauduleux ont en effet été fermés au mois de décembre. Ce spécialiste a été directeur pendant 15 ans de l'Institut français de recherche en Iran. Donc une fermeture de comptes en banque qui appartenait en majorité à des commerçants. Donc. Et par contre, tous ceux des membres du régime, eux, n'ont pas été touchés. Donc les commerçants, qui étaient plutôt proches du pouvoir, se demandent pourquoi ils se retrouvent attaqués, et non pas les ayatollahs ou les gardiens de la révolution, qui ont a priori peut-être des choses pas claires non plus sur ces comptes en banque. D'où maintenant leur révolte contre le système dont ils se sentent trahis. Le président Mahmoud Pezeshkian, président de l'Iran, qui est au pouvoir depuis juillet 2024, mais sous la tutelle du guide suprême, a lui aussi indiqué vouloir mettre fin au système, par exemple des taux de change différenciés, qui sont favorables à l'élite de la société, et donc encore une fois favorables aux gardiens de la révolution ou aux religieux. Vous voyez qu'il y a donc une scission à l'intérieur même du pouvoir. Par peur de ne plus profiter des taux préférentiels, donc les personnes concernées se sont ruées pour acheter des dollars, et ils ont fait flamber le prix du dollar à la fin du mois de décembre, donc tout ça a fait flamber en plus l'inflation, et c'est ainsi que la contestation a été lancée donc, par cette classe de commerçants plutôt aisés à la base. Pour le chercheur Bernard Ourcade, ces manifestations créent le contexte, donc, mais le cœur du débat reste politique entre deux courants, donc le courant conservateur ou les réformateurs au sein du pouvoir. Le gouvernement actuel estime qu'il faut des réformes fortes pour relever l'économie iranienne et donc calmer la contestation, mais cela impliquerait de s'en prendre au système qui bénéficie justement au régime qui est corrompu, donc à des dirigeants impliqués dans des trafics et donc au risque de faire tomber le régime. Et en plus de ça, l'extérieur justement s'en mêle, avec Donald Trump qui a menacé le pays d'intervenir militairement si les autorités commençaient à tuer des gens, comme ils l'ont fait par le passé, à rappeler que l'Iran avait déjà été ciblé en juin par des frappes américaines contre son programme nucléaire. Et c'est donc la répression qui est un petit peu scrutée de partout, et en l'occurrence, une fois n'est pas coutume, le mouvement de protestation actuel est violemment réprimé par les forces de l'ordre et de violents affrontements sont survenus. On voit des vidéos de gens qui ne se laissent pas faire, comme des motards du régime, des gardiens de la Révolution attaqués avec des lance-flammes. Moi, j'ai vu des vidéos assez impressionnantes. Mais en revanche, la répression, évidemment, fait beaucoup plus de morts du côté des manifestants. Selon l'ONG Iran Human Rights, au moins 27 manifestants, dont 5 mineurs, ont été tués depuis ces 10 jours, certains par balles. Des centaines d'autres ont été blessés. Plus de 1000 manifestants ont également été arrêtés, toujours selon Iran Human Rights, une ONG qui est basée en Norvège. Les médias iraniens, eux, relayent des annonces officielles et ils font état de plusieurs morts parmi les forces de sécurité. Deux hôpitaux, d'ailleurs, ont été ciblés par les forces de l'ordre. C'était lundi dernier, le 4 janvier. Selon plusieurs sources, la police a pénétré l'hôpital Khomeini de la ville d'Ilam pour arrêter plusieurs manifestants qui étaient blessés. Et pour la première fois depuis le début de la contestation, des violences ont eu lieu le mardi 6 janvier, en plein jour, au cœur de Téhéran. L'hôpital Sina de la capitale a été visé par du gaz lacrymogène. Et également, ça a été le cas du Grand Bazar de Téhéran, où une nouvelle grève a été décrétée par les commerçants rassemblés en scandant « Liberté, liberté ». Voilà, la répression des manifestations est à craindre, hein, au regard de la répression globale que mène le régime sur sa population, notamment depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté de 2022, et surtout aussi depuis la guerre des 12 jours avec Israël, sous couvert de sécurité nationale. D'ailleurs, l'État hébreu, lui aussi, vient de valider un nouveau plan d'attaque contre Téhéran. Mais de toutes ces menaces, ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que le pouvoir des Mollahs est proche de la chute. Il n'a jamais été aussi proche de la chute, même pris en étau entre la colère de la rue et les tambours de guerre que Donald Trump fait résonner depuis Washington.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
On part en Syrie, pas très loin, où ça se tend aussi entre l'armée syrienne et les forces kurdes. L'armée syrienne intensifie en effet à Alep ses opérations militaires contre les FDS. C'était ce mercredi dernier, le 7 janvier, des violents affrontements entre le gouvernement de Damas et des membres des FDS, donc les forces démocratiques syriennes, qui sont en majorité kurdes. Ça s'est passé à Alep, certains quartiers ont ainsi été déclarés zones militaires fermées et les civils ont été priés d'évacuer ces zones. La lune de miel post-Assad pourrait bien être terminée. C'est cette phrase choc qu'a utilisée Muhannad Selom, un professeur, expert en sécurité, qui commente les événements en cours en Syrie. Interviewé par le média qatari Al Jazeera, il se montre ainsi très inquiet vis-à-vis de la situation à Alep, donc où la tension ne cesse de grandir. Dans cette ville située non loin de la frontière turque, les affrontements ont lieu depuis hier entre des membres des FDS et l'armée du gouvernement d'Ahmed El-Shaara, qui est le nouvel homme fort qui a renversé Bachar el-Assad, c'était en décembre 2024, il y a un an. Comme l'explique toujours Al Jazeera, depuis le renversement de Bachar el-Assad en décembre 2024, les tensions se sont accrues entre les FDS, qui font donc partie d'une alliance politique contrôlant une grande partie du nord-est de la Syrie, et les nouvelles autorités. Cela notamment car l'armée syrienne accuse justement les FDS d'avoir commis des massacres contre des civils à Alep et d'avoir bombardé des zones contrôlées par les forces gouvernementales. De leur côté, eux, les FDS, accusent l'armée de perpétrer des bombardements aveugles à l'artillerie et aux missiles contre leur quartier. De son côté, le New York Times lui évoque des combats parmi les plus intenses depuis la chute d'Assad entre le gouvernement et les FDS. Et le New York Times toujours évoque, fournit même un premier bilan des affrontements en se fondant sur des informations dévoilées par des sources gouvernementales. Et il nous explique ainsi que 4 civils auraient été tués dans les zones d'Alep contrôlées par le gouvernement et un soldat aurait également trouvé la mort. Du côté des FDS, on parle de 7 civils morts dans les quartiers kurdes. Une affaire à suivre donc.
Officials say the government is doing its job, enforcing the law, protecting the public, and securing borders.
On part à Minneapolis aux États-Unis. Un agent de l'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement, la police de contrôle de l'immigration, a abattu une femme dans sa voiture, et ce, au vu de tous. Ce policier a donc tué une femme au volant de son véhicule. C'était lors d'une opération de l'ICE, donc une opération pour tenter d'arrêter des clandestins aux États-Unis. C'est dans le nord du pays, c'était hier. Le secrétariat à la sécurité intérieure américain l'a annoncé. Il évoque, lui, un acte de légitime défense de la part des policiers. Mais les responsables politiques locaux contestent vivement cette version et une grande partie de la population se basant de fait sur de nombreuses vidéos qui ont été faites en direct pendant cette opération. En effet, l'ICE mène depuis donc mardi dernier une vaste série d'opérations dans cette grande ville du nord des États-Unis et sa banlieue. Une opération impliquant environ 2000 policiers, des raids donc qui circulent dans les quartiers pour tenter d'arrêter tout ce qui ressemble pour eux à un étranger, donc un latino ou un noir. Surtout les latinos d'ailleurs sont visés puisque ceux-ci peuvent venir directement par le Mexique à pied aux États-Unis. Alors donc que des agents de cette milice menaient des opérations ciblées à Minneapolis, des émeutiers ont commencé à bloquer les agents et une de ces émeutières violentes a transformé son véhicule en arme tentant de renverser nos forces de l'ordre dans l'intention de les tuer. C'est un acte de terrorisme intérieur. Voici ce qu'a déclaré justement le ministère de la Sécurité intérieure dans un communiqué diffusé sur X. Or, dans la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit des agents des forces de l'ordre se diriger vers un véhicule SUV, un 4x4, sur une route enneigée, un véhicule qui est à l'arrêt. En effet, cette dame participait à des manifestations contre l'ICE et tentait de bloquer l'avancée des voitures de police. Là, la voiture a commencé à manœuvrer parce que les policiers voulaient la faire sortir, ils ouvrent la porte, elle essaye de s'en aller, et là, retentissent des coups de feu. Le véhicule vient alors percuter un autre garé plus, quelques mètres plus loin. Je vous fais passer un petit peu le son de la vidéo. Voilà, d'autres des manifestants qui étaient présents sur place, choqués donc de l'interpellation. Et vous entendez ensuite la voiture bah, qui vient, vu que la dame est morte au volant, la voiture vient se crasher un petit peu plus loin. D'ailleurs, ces vidéos ont été prises sous plein d'angles différents. On voit un policier, donc je vous le disais, qui tente d'ouvrir la portière. La voiture fait marche arrière, puis essaye de repartir en avant vers la droite. Pas très vite, hein. Le policier qui est un peu devant a dégainé et tire donc à travers le pare-brise. Trois coups de feu. Les témoins crient assassin. Et le maire de la ville, hein, le démocrate Jacob Frey, le maire de Minneapolis, explique « Ils essaient déjà de faire passer ça pour un acte de légitime défense. Ayant vu la vidéo moi-même, je tiens à dire à tout le monde, sans détour, que ce sont des conneries. » Et d'ailleurs, dans sa déclaration, il a exigé de l'ICE des agents qu'ils quittent la ville immédiatement. Il leur a dit « Get the fuck out of here ». Donc voilà, la tension monte. L'incident s'est produit en plus à quelques pâtés de maison de certains des plus anciens marchés d'immigrants, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est là où par exemple, les immigrants font la queue en attendant le matin d'une embauche, principalement sur des chantiers, et on est symboliquement assez fort à 1,5 km environ de l'endroit où George Floyd avait été tué par la police en 2020, un événement qui avait alors déclenché de fortes mobilisations populaires. L'identité de cette femme qui a été tuée par la police ce 7 janvier a été dévoilée. Elle s'appelait donc Renee Nicole Good. Elle avait 37 ans. Elle était la mère d'un petit garçon de 6 ans. Son père est décédé en 2023. Il est donc désormais orphelin. Elle était poétesse et avait d'ailleurs remporté un prix de poésie universitaire. Les forces de l'ordre, suite à ce drame, ont ensuite encerclé la scène de crime pour éloigner les témoins. Ils ont refusé de laisser passer un homme qui se présentait comme médecin pour essayer de lui porter secours. Une vidéo montre l'homme qui dit qu'il est docteur et dit « Laissez-moi aller vérifier l'état de la victime ». Le policier de l'ICE répond « I don't care », donc « Je m'en fiche ». Un quart d'heure plus tard, une ambulance arrive et cette même ambulance a été bloquée elle aussi par l'ICE. En gros, les policiers ont empêché toute aide extérieure pendant que Renee Good agonisait. À noter que cette femme était blanche, hein, donc... Au niveau de la population américaine et du traitement médiatique, peut-être que ce sera différent que quand c'est un jeune homme noir qui est abattu par la police. En tout cas, la population locale était choquée. Hier soir, un hommage a été rendu suite au meurtre de René. Et puis voilà, on peut quand même rappeler un petit peu ce qu'est l'ICE en ce moment aux États-Unis, hein, parce que ça crispe beaucoup le débat autour de la politique de Trump. On peut dire que c'est une milice fasciste. Hein. C'est une agence fédérale. C'est la mieux financée de toute l'histoire des États-Unis. Elle existait avant Trump, hein, mais il a débloqué des milliards pour la renforcer. Et elle emploie environ 20 000 personnes dans le pays. Le tout réparti dans près de 400 bureaux. L'ICE recrute à tour de bras pour mener donc ses raids racistes. L'agence comprend en plus plusieurs divisions de soutien composées de partenaires qui viennent aider les agents de police. Ce sont donc des volontaires, hein, des miliciens, qui rejoignent l'ICE par engagement, principalement d'extrême droite. Voilà, donc ils leur donnent des armes et le droit de se balader en ville. À Minneapolis, l'ICE était en train de mener une opération baptisée Metro Surge. Le 15 décembre, une vidéo prise dans cette ville montrait déjà une femme traînée au sol, hein, par un agent de l'ICE jusqu'à son véhicule de police, alors qu'un autre agent sortait son arme et braquait les témoins. Oui, parce que de nombreux citoyens américains, eux, avec leurs papiers, tentent d'empêcher les actions de cette milice en les suivant en voiture, en parlant dans des mégaphones quand ils patrouillent dans des quartiers pour dire aux gens de rester chez eux. Et des milliers d'exilés ont été raflés et enfermés dans cette même ville. Un commerçant expliquait à la chaîne CBS en décembre, « Ils arrêtent des gens dans la rue, ils arrêtent n'importe qui, ils attrapent tous ceux qui n'ont pas l'air blanc. » Voilà, c'est clair. Et il racontait donc que des personnes non blanches n'osaient donc plus sortir de chez elles à cause des raids, et d'ailleurs que son magasin était vide. C'est aussi d'autres petites conséquences de l'ICE, c'est que pas mal de marques qui ont comme principale clientèle, notamment les latino-américains, font faillite en ce moment. En 2025, l'ICE a commencé à utiliser une application qui utilise la reconnaissance faciale pour tenter d'identifier plus facilement les cibles à arrêter dans la rue. Au sein des nombreuses prisons et des centres de rétention de cette sinistre police, des centaines de plaintes pour abus sexuels et même pour stérilisation forcée ont été déposées. Des enfants y sont enfermés et séparés de leur famille. Des dizaines de milliers de personnes y sont enfermées en continu. We ain't gonna play it nice. Oh, you wanna fight? Keep sucking daddy's dick on the far right. Violence policière, on revient en France avec ces petits articles de l'Humanité, de nombreux médias qui rappellent les anniversaires de personnes décédées sous les coups de la police. On est notamment 6 ans après la mort de Cédric Chouvia, qui a été tué le 5 janvier 2020, et il n'y a toujours pas de procès en vue. Ce chauffeur-livreur à scooter était mort suite à une violente interpellation policière le 5 janvier 2020. Le procès des 3 fonctionnaires de police qui sont poursuivis pour homicide involontaire n'est toujours pas programmé, ce qui indigne les avocats des parties civiles. C'était donc il y a quasiment 6 ans, jour pour jour. Il effectuait une livraison à scooter pour l'entreprise de son père dans laquelle il travaillait. Et donc Cédric Chouvia décédé suite à une interpellation policière violente. Une asphyxie avec fracture du larynx, plus exactement, selon un de ses avocats. Conséquence d'un plaquage ventral brutal et d'une clé d'étranglement d'une minute et demie. Il avait 5 enfants, une compagne et donc travaillait. J'étouffe, ce sont ses mots, furent ses derniers mots. Ce chauffeur-livreur de 42 ans les a répétés à 7 reprises alors qu'il se débattait au sol, en vain. Interpellé à 9h55 le 3 janvier 2020, certainement en infraction du code de la route, il est officiellement mort 2 jours plus tard à l'hôpital européen Georges Pompidou. 20 secondes de plaquage ont montré l'enquête et l'autopsie ont suffi pour qu'il perde connaissance et que son agonie commence. La Ligue des droits de l'homme d'ailleurs lui rendait aussi hommage ces derniers jours et continue de sa part à demander l'interdiction de cette technique d'immobilisation par la police. Il y a un an, le parquet de Paris, donc en 2025, indiquait que les juges d'instruction ordonnaient le renvoi des 3 fonctionnaires de police devant le tribunal correctionnel pour chef d'homicide involontaire, conformément aux réquisitions du parquet dans son réquisitoire de 2024. Mais depuis cette année et cette annonce, toujours rien à l'horizon judiciaire. Même cas d'ailleurs, même cas, de non-traitement juridique pour le cas de Michel Zecler, qui avait lui aussi été violemment agressé il y a 5 ans, en novembre 2020, il n'est pas décédé, heureusement, à l'intérieur de son studio de musique. Il attend toujours des nouvelles de la justice. On change un petit peu d'ambiance, on part au Royaume-Uni, où on apprend que le pays vient d'interdire la publicité faisant l'éloge des produits trop gras, trop salés ou trop sucrés. Et oui, depuis le 5 janvier, au Royaume-Uni, les produits donc trop gras, trop salés ou trop sucrés ne pourront plus être mis en avant à la télévision avant 21h. Et sur Internet, l'interdiction est même totale. C'est un système de notation du gouvernement qui a évalué ces aliments, par exemple des céréales du petit-déjeuner, des biscuits, des sodas, et ils ont été évalués comme les moins sains. Ils s'appuyaient donc sur leur teneur en sel, graisse, en sucre et protéines. Le but du gouvernement britannique est ainsi de lutter contre l'obésité des enfants. En effet, selon le pouvoir exécutif, 22% des petits Anglais sont obèses ou en surpoids quand ils entrent à l'école primaire, donc vers l'âge de 5 ans. Le chiffre monte même à presque 36% pour la tranche d'âge de 10-11 ans. D'après le gouvernement britannique, l'interdiction de la publicité de produits néfastes pour la santé permettra d'éviter chaque année 20 000 cas d'obésité. Et en novembre, il avait par ailleurs annoncé qu'une taxe qui est en place déjà depuis 2018 pour les boissons sucrées, allait s'étendre aux milkshakes et au lait aromatisé. On rappelle qu'en France, un quart des jeunes sont aussi en surpoids, mais que toutes les tentatives d'interdiction des publicités de produits trop gras, sucrés ou salés se sont pour l'instant soldées par des échecs.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Dans le secteur du nucléaire, c'est une start-up en redressement judiciaire et ce malgré de fortes subventions publiques touchées. C'est encore un projet de SMR, les petits réacteurs modulaires, Small Modular Reactor en anglais, qui se trouve en difficulté. Ce mercredi 7 janvier avait lieu une audience concernant donc le redressement judiciaire de Naharea, c'est le nom de l'entreprise. Ça se passe au tribunal des affaires économiques de Nanterre. Au cours de cette audience était abordée l'offre de reprise de la plus grande start-up française du nucléaire par le groupe Eneris, qui est un groupe à la fois polonais et luxembourgeois. Donc Naharea, ça veut dire Nuclear Abundant Affordable Resourceful Energy for All, de l'énergie nucléaire abondante et abordable pour tous. Donc c'est l'acronyme pour cette start-up française, fondée en 2020, et qui est spécialisée justement dans le développement de ces micro-réacteurs nucléaires de quatrième génération. Ils fonctionnent à sel fondu et à neutrons rapides, voilà, vous savez tout. Vous vous rappelez que Macron avait fortement essayé de pousser la création de cette filière, et donc en 2023, l'entreprise Naharea, la start-up, avait été lauréate d'un appel à projet qui s'appelait Réacteur nucléaire innovant, inclus dans le plan d'investissement France 2030. Et en étant justement lauréate, ça lui avait permis de bénéficier de 10 millions d'euros de financement public pour se développer. Visiblement, ce n'a pas suffi. En manque de trésorerie à court terme, avec une dette de 15 millions d'euros, elle a donc été placée en redressement judiciaire le 3 septembre dernier. Des rencontres ont eu lieu les derniers jours entre les représentants du personnel de cette start-up, d'environ 200 salariés, et le comité interministériel de restructuration industrielle, qui est à Bercy en charge des dossiers délicats. En cas d'accord entre la justice et le ministère des Finances à une reprise de cette start-up par Eneris, donc les géants polono-luxembourgeois, ce repreneur pourra mettre la main sur les brevets de la start-up. Et Naharea n'est pas la seule start-up spécialisée dans ces micro-réacteurs à rencontrer des difficultés techniques ou financières, malgré, donc vous l'avez compris, un soutien intensif de l'État. On peut parler aussi de Nucleo, qui développe des réacteurs modulaires compacts à neutrons rapides, eux refroidis au plomb. Elle projette d'en installer un dès 2031 entre Beaumont et Savigny environ en Indre-et-Loire. Eh bien, elle bénéficie d'environ 20 millions d'euros de financement de l'État, mais elle se trouve elle aussi en manque de trésorerie. C'était en tout cas les derniers chiffres à la fin de l'été dernier. En septembre, on a parlé de la start-up Jimmy, qui avait dû simplifier le design de son réacteur, qui s'était révélé peu compétitif. Elle avait de son côté reçu un chèque de l'État de 32 millions d'euros en novembre 2023.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Allez, on termine avec pas forcément une bonne nouvelle, mais quand même un petit peu une semi-bonne nouvelle, on va dire. Ça concerne le journal indépendant L'Empaillé, dont on vous parle régulièrement et avec lequel on a eu un entretien au mois de septembre. Ils sont attaqués pour injure par le directeur de la police municipale de Perpignan, donc ils ont un procès. Ils vont devoir se défendre. C'est aujourd'hui que l'audience a lieu, mais ils indiquaient sur leur site aujourd'hui avoir la chance pour les accompagner dans cette défense, de recevoir le soutien d'un fonds, le fonds Riposte, un soutien donc financier pour se défendre. C'est un fonds qui vient tout juste d'être créé par le Fonds pour une presse libre et Media Defense, qui est une organisation basée en Angleterre. Ce fonds est justement créé pour aider la presse indépendante à faire face à toutes ces procédures bâillons qui se multiplient, et je vous en parle régulièrement à ce micro, notamment les médias d'investigation, qui s'intéresse par exemple aux dérives d'extrême droite du pouvoir ou de la police. Dans ces affaires, plus que le risque de condamnation, c'est surtout donc le coût en temps et en argent pour le média qui constitue donc le cœur de l'attaque. Ils savent effectivement que du côté plutôt à gauche de l'échiquier politique et à l'extrême gauche, on n'a pas trop d'argent. Alors, les deux parties sont en asymétrie dans ce procès. Le directeur de la police municipale de Perpignan, lui, il peut puiser dans le budget municipal pour lancer des plaintes. Et pour un média associatif précaire comme L'Empaillé, c'est très compliqué de débourser les honoraires et en plus de dégager du temps pour préparer sa défense. Ils avaient d'abord été convoqués en octobre 2025. Ils avaient donc hâte d'en finir avec cette procédure pénible. Mais au dernier moment, justement, le président de la police a demandé le report. Il sait aussi que ça n'arrange pas forcément la défense de devoir se réorganiser. L'audience est donc fixée aujourd'hui. C'est à 14h au tribunal correctionnel de Perpignan, place Arago. Si par miracle vous allez là-bas, là entre l'heure où je vous parle et le début, vous pouvez y aller. Il y a un rassemblement de soutien qui sera fait sur la place à Arago. Il vous invite donc à venir en nombre pour suivre la plaidoirie de leur avocat qui est engagé contre l'extrême droite. N'hésitez pas, disent-ils, à arriver en avance pour avoir le temps de papoter sur le parvis et de passer les portiques de sécurité. Quant à eux, ils s'annoncent confiants, hein. Quitte à subir un procès, autant faire de cette date une journée de lutte contre les procédures bâillons, contre l'utilisation des institutions judiciaires dans le but de nuire aux médias indépendants. Et je rappelle que la plainte qui a été faite contre eux, c'est parce qu'ils avaient justement qualifié ce monsieur d'ancien caïd de la police, je crois, du côté de Paris, voilà, aux méthodes d'extrême droite. Donc, pendant cette audience, ils vont demander justement à ce que monsieur Rouche, en plus de la relaxe, leur verse une indemnité pour ses frais de justice. Et il s'appuie là-dessus sur un article de code de procédure pénale, l'article 800-2, malheureusement trop peu appliqué jusqu'à présent, disent-ils, dans le cas de ces procédures bâillons. Et en effet, comme le dit la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a lancé une alarme en février 2025, des acteurs qui abusent de leur position dominante, non pas pour faire valoir ou exercer un droit, mais pour faire taire des personnes pour qu'elles ne puissent pas participer au débat public.
Une dictature, comme vous y allez. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
Des nouvelles du monde.
C'est tout pour les nouvelles du monde aujourd'hui. On se quitte avec un petit banger que j'ai trouvé sur Internet en faisant mes recherches sur justement ce qui s'est passé à Minneapolis et les actions de l'ICE. Il y a énormément de morceaux qui portent ce nom F-C-K-I-C-E, donc Fuck ICE, je crois, en anglais. On termine là-dessus. Allez, bye bye.
Federal officials say the government is doing its job, enforcing the law, protecting the public, and securing borders.
Fuck ICE, we ain't gonna play nice. Oh, you wanna fight? Keep sucking daddy's dick on the far right. Fuck ICE, we ain't gonna play nice. Oh, you wanna fight? Keep sucking daddy's dick on the far right. Fuck, 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 fuck.
ICE, 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 ICE.
Fuck, fuck, fuck. We ain't gonna play nice. Oh, you wanna fight? Keep sucking daddy's dick on the far right.
Chaos erupted in the streets of Los Angeles as protesters and police clashed. Tensions escalated Sunday as thousands of protesters took to the streets in response to President Donald Trump's extraordinary deployment of the California National Guard.
Fuck ICE. We ain't gonna play nice. Oh, you wanna fight? Keep sucking daddy's dick on the far right. Fuck ICE. We ain't gonna play nice. Oh, you wanna fight? Keep sucking daddy's dick on the far right. But ice, 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 ice,
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.